Vous l'avez tous appris à l'école, la Loire prend sa source au Mont Gerbier de Jonc, un sommet situé dans le Massif central et 1000 km plus loin, elle se jette dans l'océan Atlantique après un périple à travers plusieurs départements. La beauté des paysages de la Loire est légendaire et elle a inspiré bon nombre de peintres, de cinéastes ou d'écrivains. Mais le dernier grand fleuve sauvage d'Europe est aussi menacé par les activités humaines. Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous signez aujourd'hui pour la Terre au Carré un nouveau reportage grand format. Vous avez parcouru 500 km de la centrale de Dampierre dans le Loiret jusqu'à l'estuaire, à Saint-Nazaire, à la rencontre des femmes et des hommes qui se battent pour préserver la Loire. Nul n'est censé ignorer la Loire, c'est à découvrir dès maintenant. Clément Nouguier a réalisé et mixé ce reportage avec Antoine Teboul à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Si jamais, je vous le dis, vous tombez dans la Loire, vous vous laissez aller surtout, vous n'essayez pas d'aller à contre-courant, vous vous laissez aller et Loire vous déposera quelque part en vous accrochant soit à un bout d'île ou à un bout d'arbre, voilà. Mais surtout, se laisser aller, si vous savez nager, tout se passera bien. Voilà, il ne faut pas avoir peur en fait.
Il ne faut pas lutter contre la Loire.
Non, il ne faut pas lutter, il faut se laisser embarquer par elle.
Alors Guy Vanctil, voilà le programme pour cette heure de reportage, se laisser porter le long de la Loire.
Oui, au fil de l'eau, pour écouter le fleuve, ses histoires, mais aussi ses signes de détresse.
Oui, car la Loire va mal, sécheresse, artificialisation des terres, pompage excessif, pollution et recul de la biodiversité.
À tel point que certains veulent lui accorder une personnalité juridique, des droits et même un parlement. Vous en aviez parlé ici même en début septembre avec l'écrivain Camille de Toledo et la juriste Valérie Cabanès à la parution du fleuve qui voulait écrire aux Les liens qui libèrent.
Oui, Guy, c'est un livre qui raconte donc les auditions du Parlement de Loire pour imaginer un nouveau mode de représentation du fleuve, à la fois juridique et symbolique, et répondre donc à ces défis environnementaux.
Et un fleuve qui devient sujet, moi, ça m'a plu comme sujet. Alors j'ai demandé conseil à Maud Le Floch et son équipe du Polo, le pôle art et urbanisme de Tours, qui est à l'origine de cette aventure, qui allait retrouver pour m'initier à la Loire.
Et c'est donc cette galerie de portraits que vous nous proposez, chercheuse, batelier, pêcheur, urbaniste ou zadiste, chacun avec son bout de fleuve.
Ouais, ce sont un peu des gardiens d'un fleuve qui se défend, car tous se retrouvent autour d'une même idée. À l'heure de l'urgence climatique, il nous faut changer notre regard pour pouvoir changer nos pratiques. Et spécialement quand on voit comment la COP26 a, comme dit Greta, fini en blablabla.
Nul n'est censé ignorer la Loire. Reportage donc que vous signez Guy Vanctil pour La Terre au Carré. On part en musique avec un remix de trio Da Da Da.
Nearly 200 nations have finally reached the COP26 climate agreement from Glasgow, Scotland. Now objective, garantir o futuro do planeta.
La COP26 sur les changements climatiques qui est censée faire le point sur la conscientisation des
enjeux. Mesdames et messieurs, chers amis, beaucoup de choses ont été dites et nous avons eu en ouverture de session des mots extrêmement forts et je crois beaucoup d'émotion pour dire
bla bla bla, build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla, net zero by 2050, bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral, bla bla bla.
Greta Thunberg a fustigé la COP26 qu'elle estime déjà être un échec.
Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Blah, blah, blah.
They invite cherry-picked young people to meetings like this to pretend that they are listening to us. But they are not. They are clearly not listening to us. And they never have. Just look at the numbers. The science doesn't lie.
Da, da, da. Don't love you, don't love me. Da, da, da. Don't love you, don't love me. Da, da, da. Don't love you, don't love me. Da, da, da. Don't love you, don't love me.
France Inter. La Terre au Carré.
Il y avait aussi des grosses cannes là, toutes, voilà.
Oui, toutes blanches là, ouais. Qui sont en escadrille.
Alors, elles vont venir nous voir et nous parler.
Ah oui, ils nous ont repérés, ils ont dit voilà des gens qui vont nous donner des bouts de pain ou des...
Je ne sais pas, moi. Enfin, en tout cas, elles sont dans une revendication, ça c'est sûr. Voilà. Donc moi, je suis Virginie Serna, je suis archéologue et je travaille en fait sur la Loire au service régional d'archéologie donc d'Orléans. Donc c'est une archéologie en fait qui s'interroge sur la façon dont les communautés ont pu s'entendre, pas s'entendre, habiter sur la Loire et sur les affluents. Donc là, on est avec cette très belle surface de la Loire, une eau marron. Moi, je l'aime marron. Moi,
on va pas tourner autour du pot.
Je l'aime marron. Donc elle est marron et vous voyez qu'on a donc le front de la ville, donc la cathédrale d'Orléans. Et en fait, dès qu'on passe la levée, hop, on rentre dans un autre monde. Et voyez, donc là, on est sur le Duit.
C'est comme une digue en pierre.
Exactement. En fait, là, on est sur la partie la plus ancienne qui relie donc la rive gauche à ce qui n'existe plus maintenant, mais qu'on voit au loin, une ancienne île qui était en fait une île habitée, fortifiée, sur laquelle il y avait des habitations. Donc tout ça, maintenant, c'est du sable et une forêt alluviale, intéressante d'ailleurs.
En pleine ville, d'ailleurs.
En pleine ville. Et vous allez voir, c'est ça qui est la magie de la Loire, c'est de renverser, de chambouler, en fait, des paysages. Alors attention, parce que là, on se casse la figure facilement.
Oui, parce que les pierres sont érodées.
On a un petit vortex, là.
Un tourbillon,
Un tourbillon. C'est aussi ce qu'on appelle un renard hydraulique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en dessous, il doit y avoir, en fait, un trou. Donc l'eau s'engouffre, ça part et ça ressort en fait par là-bas.
Ça c'est le bruit d'un tourbillon de la Loire. On a l'impression qu'elle vit, quoi. On a l'impression que c'est un organisme.
Bon alors là, l'espace n'est plus beaucoup plus libre que ça.
Là, on passe dans la broussaille.
Ah, regardez, là-bas, on a un héron cendré qui est en train de parler avec une petite aigrette blanche, vous voyez au fond?
Oui. Le profil, là, on les voit dans une petite mare, dans un coin qui est un peu abrité, justement.
Oui, alors justement, c'est dans ce coin-là qu'on a une partie des piles, en fait, du pont médiéval d'Orléans, dont on voit se dessiner, en fait, les fondations au travers de la végétation qui pousse dessus.
Ah oui, d'accord. Autant c'est en négatif, quoi.
Exactement. Autant de végétation, autant de piles de ponts médiévales. On va s'approcher parce qu'il y avait deux pieux qu'il faut que je regarde un peu plus près.
Oui, parce que vous êtes là pour bosser quand même.
Alors, ils sont où mes pieux? Ah, ben les voilà. Voilà, je les ai vus hier. Moi, je vais faire ma petite.
Allez-y.
Donc, au niveau de la rivière, les sites archéologiques sont dans une modestie et une banalité parfois désespérante. Mais c'est ça que j'aime, au contraire. On est dans une archéologie du peu, du très peu. Voilà, donc hop, le héron qui est repassé par là. Donc, il est là. Ben, en fait, il doit quand même protéger un espace bien particulier. Donc là, on est dans la négociation des territoires. Et effectivement, on rentre dans son territoire. Donc,
ce petit bout d'Orléans lui appartient.
Ouais, je pense qu'il le revendique haut et fort. Vous allez voir, dès qu'on va avancer, il va tournoyer autour de nous et aussi avertir ses congénères que...
Des intrus, quoi.
Des intrus sont là. Et en même temps, bon, c'est là où il faudrait qu'on commence à leur faire la déclaration du fleuve qu'il voulait écrire, parce que là, il m'écoute. Alors,
vous sortez votre livre, Le
fleuve.
Fleuve
qui voulait écrire, mise en récit, Camille de Toledo.
Aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Les auditions du Parlement de Loire. Donc, la représentation des entités naturelles est nécessaire. Commentaire. L'état contemporain de nos territoires, de nos milieux de vie et, plus globalement, de l'écosystème terrestre montre que les affaires humaines et non humaines ne peuvent plus être séparées. Elles sont entrelacées, solidaires, codépendantes. Les conséquences de nos modes de vie humains sur les équilibres terrestres sont telles qu'il importe d'accueillir dans nos institutions et dans l'ensemble de notre vie politique les perspectives et les voix des éléments de la nature.
Hop, Véron cendré s'envole et commence à... Ah, il va se poser, là, il y a son lit.
C'est un autre. Donc, il vient écouter.
Donc, ça marche, votre...
Donc, ça marche. Je suis contente. Donc ça marche.
Ouais, vous en parlez pas du tout comme une chercheuse de ce fleuve. Vous en parlez avec beaucoup de lyrisme.
Bah, on peut appuyer sur le bouton recherche, hein, si vous voulez. Non, mais tout ça fait que je pense maintenant... j'essaie de penser à la masse d'eau qui couche. J'essaie de penser Loire ou de penser sable. Modestement, alors ça rend aussi très modeste. Hein. Le Parlement de Loire nous a rendu très modestes aussi devant l'ampleur de ce fourmillement et devant l'ampleur de cet écosystème. Et ça m'a rendue aussi, je le dis vraiment très sincèrement, beaucoup plus respectueuse que je ne l'étais. On est là dans apprendre à vivre ensemble.
Et c'est là que ça devient politique, votre réflexion poétique.
Tout à fait, mais c'est par le langage poétique que l'on va arriver sans doute à faire bouger des lignes politiques. On est dans... Ah, regardez, hop.
Un petit envol. Il y en a une blanche et une grise là, ça.
Ouais, donc ça c'est une sterne et puis le héron cendré, toujours, qui est là. C'est toujours le même, en fait.
Ah ouais, hein.
Il défend, c'est vraiment, on est sur son île. Hein. Ouais, ouais. Il nous surveille. Alors, lui, c'est un cormoran, là, qui passait. On a aussi des petites sternes qui sont là. Bon, ça, c'est le canard, ça. Derrière, on entend les oies. Tout le monde se parle, là. Ouais. Ils réfléchissent au Parlement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Inter. La Terre au carré.
Il est 9h du matin sur les bords de Loire. On est près de Tours. Et voilà un magnifique bateau sur le ponton où je suis. Alors je monte.
Bon, ben voilà, nous avons notre petit coin de paradis.
Bon, ben allons-y.
On va quand même commencer avec un petit tour de moteur. Je l'allume pour vérifier qu'il marche. Mais après,
On largue les amarres. Et c'est un bateau très fin, très élancé, avec un grand mât et la voile carrée. On commence à partir. Ah, c'est bien, avec le courant, on n'a qu'à laisser faire, quoi. Ça, on se laisse dériver.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que j'aime bien commencer comme ça, par une dérive.
Après Orléans, nous voici donc près de Tours, Guivantil, où l'on continue donc ce voyage au fil de la Loire.
Et quoi de mieux, Mathieu, que de le faire en bateau, à la dérive, au bord de la Rabouilleuse, du nom des jeunes filles qui remuaient le fond de l'eau pour pêcher les écrevisses. Et avec un capitaine, Clément Sirgue, qui, vous allez l'entendre, est aussi un intarissable éducateur environnemental quand il vous balade sur son fleuve.
Voilà, là, on est pas mal.
Ouais, tout de suite.
Là, c'est parti. Ouais, j'aime bien démarrer comme ça parce que... Ah, une petite corneille. Mais quand t'es au milieu de l'eau, c'est...
Ouais, là, on se sent porté. C'est un héron qui est passé, là.
C'est le héron, là. On va voir, on a un cormoran dans le fond, là, qui est perché. L'écume, là, qui est dans les branches. Donc, ça, c'est le matin. Hein. Le matin, il a fait frais dans la nuit, donc ça favorise un peu le développement de l'écume. Puis là, on essayait de redécouvrir un peu ce fleuve comme il était utilisé dans les années 30, 40, 50, quoi.
Ouais, parce que là, vous avez repris avec ce bateau-là, cette Rabouilleuse où on est en bois avec sa petite voile, et là, on dérive tranquillement sur la Loire. Avant, c'était une autoroute.
Ah oui, alors c'est clair que le fleuve, c'était vraiment la voie d'accès, la voie principale sur le territoire.
C'est cette géographie-là qui a fait que toute cette région est patrimoine mondial de l'UNESCO.
Complètement, mais c'est vrai que quand on dit les châteaux de la Loire, c'est pas du second degré. Hein. C'est vraiment Chambord, Blois, Chaumont, c'est des châteaux qui sont passés là, juste là, là, pierre par pierre, ardoise par ardoise. Tous les éléments sont arrivés par le fleuve. Toutes les denrées passaient par là. Donc c'était vivant, il y avait énormément de gens qui exploitaient la rivière. Et donc voilà, des bateaux à fond plat, des voiles carrées, et puis aussi... Parce que les anciens, ils faisaient des bateaux adaptés au fleuve. Et on a besoin de s'adapter à ce fleuve-là. Un fleuve qui a su nous imposer ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas adapté le fleuve à nos usages, on a adapté nos usages au fleuve. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de le redécouvrir. Parce qu'en fait, l'eau qui est là, l'eau qui coule là, c'est une eau qui est chargée d'histoire. C'est une eau qui est passée par notre territoire et qui a une histoire agricole, industrielle, domestique, urbaine. Là, tu prends un verre d'eau, t'analyses, t'as tout. T'as les antidépresseurs, t'as le tritium, t'as les nitrates, t'as tout ce qu'il y a. Voilà, tout finit là et toute la vie de notre territoire finit là. Et si tu fais une analyse un peu fine, effectivement, c'est pas que rassurant. Et en même temps, On a un paysage qui est incroyable, on a un fleuve qui a été relativement préservé par rapport hein, à d'autres fleuves, qui a encore des dynamiques naturelles, qui a encore des choses à nous montrer, et du coup ça fait du bien, ça redonne espoir, et en même temps, voilà, ça nous dit les choses. Enfin, pour être bien face à la réalité, je pense que c'est intéressant d'être sur un fleuve. Là, je vais réagir, parce que sinon, tu vois, on va finir dans le, ouais. dans le tas de branches qui est là-bas.
Ah oui.
Ça arrive vite. Hein. On parle de la navigation traditionnelle, donc il faut quand même un peu...
Un coup de perche. Il y a vite des coups pour pouvoir se remettre dans le sens et pas se prendre ce tronc d'arbre qui est tombé d'une des îles.
Mais bah oui, on descend comme ça à la dérive et puis on essaie d'éviter de se prendre les îles, quoi.
Dès qu'on remonte, on va être dans une zone plus naturelle, donc on va aller voir.
Allons-y.
On poursuit notre état des lieux le long de la Loire, Guivanctil, en remontant vers Gien, jusqu'à la centrale nucléaire de Dampierre.
Oui, parce qu'après Clément Cyr qui nous parlait du tritium et de tout ce qu'on retrouve dans les eaux du fleuve, j'ai voulu aller retrouver une de celles qui surveille sa radioactivité.
Oui, car il y a aujourd'hui pas moins de 14 réacteurs en activité, justement, sur le bassin versant de la Loire.
À quoi s'ajoutent 5 réacteurs de la première génération, graphite gaz, qui ont été mis à l'arrêt et qui posent aujourd'hui des problèmes de démantèlement. Bref, la Loire et le nucléaire, ça commence à être une vieille histoire.
France Inter. La Terre au carré.
Electricity. Autre temps, autre mœurs. Alors que les rois de France avaient choisi d'habiter le Val-de-Loire pour la douceur de leur paysage, nous, nous y construisons des châteaux de béton, des centrales nucléaires pour étancher notre soif d'énergie. Après Chinon et Saint-Laurent-des-Eaux, c'est maintenant au tour de Dampierre-en-Burly, à côté de Gien, d'entrer dans le club des cités nucléaires. Ici, à Dampierre, sur 350 hectares, il y aura bientôt 4 centrales nucléaires, flanquées chacune d'une tour de 140 mètres de haut.
Ça, c'est ces nuages qu'on voit sortir.
Voilà, c'est ça. C'est ici, les enfants appellent ça l'usine à nuages.
Hein. Oui, c'est un paysage assez dystopique.
Absolument.
On entend le petit cuicui des oiseaux. Il y a encore un peu de soleil de fin d'automne. La Loire est derrière, pas loin. Ouais. Sauf qu'on est à l'ombre des 4 gigantesques cheminées du réacteur nucléaire de Dampierre, pile sous les lignes à haute tension qui nous barrent le paysage.
Voilà, donc bon, bah moi je m'appelle Catherine Fumé, je suis née dans cette région, je suis très attachée à la Loire et à cette région, le Giennois, enfin aux confins du Berry, du Gâtinais et de la Sologne à peu près, hein, sur les bords de la Loire. Juste après la catastrophe de Fukushima, je me suis dit, bon, quand même, il faut essayer de surveiller sérieusement ces deux centrales entre lesquelles je vis, celle de Belleville-sur-Loire. Je suis à 10 km de celle de Belleville et je suis maintenant à 35 km de celle de Dampierre. Donc voilà, je fais partie d'une association de vigilance sur ces deux sites nucléaires. Donc on est 13 groupes maintenant qui partent de la Loire moyenne jusqu'à l'estuaire de la Loire parce qu'on a quelque chose qui nous relie, qui est la Loire qui est fortement impactée par l'activité nucléaire qui pompe quand même, c'est un des plus grands prédateurs d'eau de France, hein, qui pompe de l'eau pour refroidir ses réacteurs. Vous voyez là, on a 4 tours aéro-réfrigérantes qui vaporisent 1 mètre cube d'eau par seconde. Donc 1 mètre cube par seconde, on avait calculé que les 4 sites de la Loire, ça faisait 400 piscines olympiques par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, qui sont pompées dans la Loire et qui ne sont pas restituées. Donc voilà, l'usage nucléaire, c'est à la fois une prédation, une captation de l'eau qui pose des problèmes après au niveau de la faune, de la flore, etc. Et une pollution, il faut l'appeler par son nom, hein, un rejet de substances toxiques, c'est une pollution.
On va voir du coup justement où vous faites vos mesures.
Oui, on peut y aller.
Allons-y.
Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. C'est un message fort de la France. Vous le voyez bien, nous nous préparons à affronter les défis de l'avenir.
Effectivement, c'est beaucoup plus champêtre, là.
C'est la Loire.
Et si je regarde tout à gauche, là, un peu en amont, eh ben, je vois encore un bout de la centrale de Dampierre.
Oui. On voit le panache vraiment qui monte très très haut.
Ouais.
Et nous, notre collectif s'appelle Loire-Vienne Zéro Nucléaire. On mesure, là, juste en contrebas.
C'est-à-dire que c'est une bande de citoyens qui s'amusent à aller avec des pipettes et des bottes et prendre de l'eau.
Voilà, c'est ça.
Et j'imagine que dans un paysage aussi beau et si naturel que celui dans lequel on se trouve, tout va bien et toutes les mesures sont en vert.
Alors le problème, c'est qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a des jours, là par exemple pour Dampierre, sur l'année 2021, on a à plusieurs reprises dépassé les 100 becquerels par litre de tritium. Le tritium, c'est un petit atome d'hydrogène radioactif. Ouais. Qui a une période de demi-vie de 13 ans à peu près. Hein, donc tous les 13 ans, il peut en disparaître la moitié. Belleville en rejette, puis 45 km plus loin, c'est Dampierre, puis après c'est Saint-Laurent, puis après c'est Chinon, et puis après c'est Civaux qui rejette dans la Vienne et ça vient rejoindre la Loire. Voilà, donc tout ça, ça s'accumule. Alors les 100 becquerels par litre, c'est pas une dose létale, une concentration mortelle. Évidemment, c'est pas un truc spectaculaire où tous les poissons sont d'un seul coup le ventre à l'air sur la Loire.
Et puis là, je vois pas de grenouilles mutantes.
Voilà. Mais c'est une concentration qui fait que si on la dépasse, on doit lancer des investigations parce que ça peut être le signe de quelque chose de plus sérieux.
Mais pourquoi que vous ne croyez pas ? Je suis une grenouille !
Et puis donc l'année dernière à Saumur, on avait mis en évidence 310 becquerels par litre. Alors là, c'est quand même très sérieux. Ça fait trois fois le seuil d'alerte.
Et c'est quoi les conséquences du tritium ?
Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas tellement.
Aïe.
Et donc il y a une pression quand même de la société civile pour dire mais bon sang, analysons, surveillons l'impact de cette substance, sachant que c'est absorbé dans la Loire par tout ce qui est vivant, hein, par les poissons, par les oiseaux, enfin par toute la chaîne alimentaire et par les humains. Non seulement du tritium radioactif, mais du coup, plus de 480 tonnes de polluants ont été déversés en 2020 dans la Loire, rien que par Belleville et Dampierre.
C'est des chiffres officiels.
C'est les chiffres officiels.
18 tonnes de sodium, 13 tonnes de cuivre, 6 tonnes d'acide borique.
Rien qu'à Belleville. Hein. Mais par exemple, 109 tonnes de sulfate à Dampierre. 72 tonnes de nitrate à Dampierre. Le cuivre qui se retrouve dans l'estuaire de la Loire, il y a eu une étude sur 5 ans qui a été menée par le CNRS et qui met en évidence dans les sédiments de l'estuaire, qui est quand même à 150 km de la dernière centrale de Loire.
Et à 500 km d'ici au moins.
Oui, je ne sais pas. une présence de tritium régulièrement alimentée par les centrales dans les sédiments de la Loire et une concentration en cuivre dans les huîtres de l'estuaire anormale depuis 30 ans. Et voilà, et ça fait donc des quantités assez importantes de cuivre et aussi de zinc, etc., qui sont rejetées dans la Loire. Et aussi de substances totalement interdites, très dangereuses, comme la morpholine, l'hydrazine, etc. Voilà.
Ce qui fait que, voilà, alors on a compris, la Loire, c'est le fleuve sauvage, disent certains, c'est le fleuve patrimoine mondial de l'UNESCO pour son histoire, etc. Mais c'est aussi un fleuve nucléaire.
Voilà, c'est
en tout cas, qui est une pièce essentielle. Voilà. Dans la fouture de cette énergie qui, rappelons-le, à ce dernier temps, le vent en poupe depuis le discours d'Emmanuel Macron qui annonce une nouvelle génération de construction de centrales nucléaires. Donc c'est bien des problèmes qu'il va falloir qu'on se pose assez vite.
Oui, parce qu'il y a tout un tas de problèmes subséquents, sans parler du fait qu'on est dans une période de réchauffement, semble-t-il, que du coup... les centrales ont besoin d'être refroidies en permanence, que le niveau de la Loire, sauf cet été, mais les dernières années, il baissait dangereusement et du coup on était obligé de ralentir ou même d'arrêter à certains endroits les réacteurs. Donc il y a tout un tas de problèmes qu'il faut aussi prendre en compte. Et le problème du nucléaire, c'est que c'est toujours le fait des dirigeants et que ça n'a jamais, jamais été soumis à réflexion des habitants, des citoyens. Voilà.
Et alors du coup, vous, Catherine Fumet, avec Loire-Vienne Zéro Nucléaire, comment vous avez vu cette discussion et ces conversations sur un statut de la Loire ? C'est d'essayer de penser les fleuves plus chacun dans son petit bout.
Mais dans leur continuité.
Mais dans leur continuité et dans les différentes problématiques. Vous, c'est le nucléaire, à juste titre, puisqu'on est, je rappelle encore une fois, à l'ombre de la centrale.
Voilà. Tout ça est lié, parce que tout ça, c'est une certaine conception de la nature au service de l'homme. Et sans prendre jamais en compte autre chose que de l'économique et pas du tout de l'impact à long terme sur les écosystèmes. Et cette histoire de personne morale ou de parlement, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On habite tous là, hein, on habite tous au bord du fleuve, on est très présents, on aime la Loire, on a envie de la préserver, de la protéger. Par exemple, l'artificialisation des sols, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, ça participe à tous ces phénomènes de crues, d'inondations, de choses comme ça. La terre ne peut plus absorber l'eau. Bon, voilà, enfin, toutes ces problématiques, effectivement, sont liées. Et alors, du coup, on est en lien aussi avec cette coordination qui s'est montée, qui s'appelle La Loire Vivra. Voilà. Qui, elle, s'est constituée plus par rapport à des problèmes de projets routiers et de contournement. Mais je pense que voilà, on a intérêt effectivement à se relier et à faire corps sur ces questions, parce que des amoureux de la Loire, il y en a beaucoup.
Après Dampierre et sa centrale nucléaire, eh bien, on reprend la route Guivantil vers Saint-Denis de l'Hôtel, à une trentaine de kilomètres de là.
Oui, parce que Catherine Fumé, vous avez entendu, nous a parlé d'un collectif Loire Vivante qui se mobilise contre un chantier de pont à l'est d'Orléans.
Un vieux projet routier, donc un serpent de Loire, censé décongestionner la circulation et favoriser les nouvelles plateformes logistiques.
Et ses adversaires y ont même tenu une ZAD. Évacuée depuis, on y retrouve donc François Guerouet, qui se définit comme un nomade ligérien et qui s'engage pour ses paysages.
Donc on est là, bah là je fais le tour d'un rond-point où commence en fait la déviation dite de Jargeau.
C'est un de ces ronds-points qui pour l'instant sert à rien.
Voilà, le rond-point vient juste d'être construit, la forêt a été défrichée et donc là on voit comment tout est prêt pour que on mette le bitume, mais il n'est pas encore mis. Donc on a une friche devant nous là.
Ah c'est ça là, la coupe franche là qui est dans le petit bois. Et là pendant qu'on roule là, il y a en fait des piles et des piles d'arbres
qui
ont été abattus.
Longtemps. Donc ce projet contre lequel on lutte aujourd'hui, donc qu'ils appellent la déviation de Jargeau, c'est en fait un résidu de tous les projets d'aménagement qu'ils n'ont pas pu faire d'un coup, qui aurait permis de fluidifier plus facilement et de faciliter les transports de marchandises localement. Voilà, là on retraverse encore une fois là.
Ah ouais, c'est vrai, ça coupe régulièrement le paysage de gauche en droite, et cette grosse balafre là.
C'est ça, d'arbres coupés, de zones humides, entrecoupées, etc. On est quand même sur un projet à 100 millions d'euros.
Ah oui.
Ça correspond à un an d'investissement du conseil départemental. Et donc nous, on est arrivés, donc quand je dis nous, c'est une bande de jeunes issus de la région, du mouvement climat notamment, mais pas que. Moi, je suis plutôt issu des mouvements liés aux ZAD. Voilà, je suis un nomade qui se balade un peu sur les lieux de lutte, comme ça, contre les projets comme ici. Et puis là, on arrive donc à l'entrée du bois qu'on a défendu, qu'on n'a pas réussi à empêcher d'être détruit.
Et là, je vois d'ailleurs le tas de grumes d'arbres aussi qui sont encore empilés là, c'est... Le paysage est assez, assez monotone, je dois dire, parce que c'est des ronds-points flambant neufs qui mènent nulle part, qui s'arrêtent au milieu des champs. Ça fait un côté un peu village Potemkin. C'est ça. Et les tas d'arbres morts qui ont été découpés. Et là, on voit au loin, on va s'arrêter. Accès nord chantier, déviation de Jargeau naturellement.
On va retrouver Catherine, qui est une habitante du coin, qui milite contre ce projet et qui va nous raconter un peu toute cette manière de faire de la communication autour d'un tel projet.
France Inter.
Ah ben là voilà.
La Terre au carré.
Je raconte tout ce qu'a Jargeau. Pour circuler, c'est la galère. Et qu'ils aiment autant les oiseaux que la sécurité routière. Personne ne veut voir les poids lourds passer devant son pavillon. Alors on se met à rêver d'un raccourci à 100 millions.
Bonjour.
Enchantée, Catherine.
Salut.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Alors, je suis Catherine, j'habite Jargeau, j'ai passé toute mon enfance à Mardier. J'ai pas été particulièrement ni militante ni engagée dans une lutte quelconque. Et puis à partir de 2019, j'ai commencé à entendre parler de ce projet, que cet endroit-là va être saccagé parce qu'il va y avoir un pont qui va permettre à des camions et des voitures de désengorger Jargeau et Saint-Denis-de-l'Hôtel.
Un nouveau pont sur la Loire.
Un nouveau pont sur la Loire, indispensable à 2,5 km du précédent.
Balance ton pont, même si t'aimes pas les bouchons, au fond je sais que t'as compris. Balance ton pont, ou bien tu le regretteras. Balance ton pont.
Mais c'est pour des plateformes logistiques, c'est pour du transit routier, c'est pour tout ce qui ressemble de près ou de loin voilà. Au vieux monde carbone, si je ne m'abuse.
C'est ça, c'est ça. Et il se trouve que le Loiret est la quatrième plateforme logistique de France.
En fait, ce qui est dingue, c'est qu'au-delà d'ici, bon, il y a ici, mais il y a toute la région, ça pousse de partout, quoi. En Sologne, en Berry, en Touraine, tout le long de la Loire. Vraiment, les plateformes logistiques, c'est complètement fou, quoi. Je pourrais en citer déjà 10 juste de tête, quoi, qui poussent en ce moment. Sans compter celles qui ont déjà poussé ces 20-30 dernières années et celles qui vont certainement encore pousser. C'est, voilà, il y en a qui appellent ça le déménagement du monde, quoi. C'est hallucinant, l'écart, en fait, entre les discours et les mots. Et...
Laisse-moi t'expliquer qu'on essaye de nous en... C'est tes impôts qui vont payer un projet déjà périmé.
Et ici, là, tout ça, le bois se continuait jusqu'à la Loire.
Ici, tout ça, c'était les bois. Tout ça, c'était les bois jusqu'au champ.
Et alors, c'était quoi vos impressions quand vous avez vu justement les élagueuses, les pelleteuses les broussailleuses?
En fait, j'ai beaucoup pleuré, évidemment. Toute la journée, j'ai pleuré.
Pleuré, carrément?
Oui.
Ah non, ne recommencez pas, je ne vais pas vous faire pleurer, excusez-moi.
C'est ça, raconte.
Ils sont arrivés là avec les machines. Donc, on a appelé tout le monde, là. Ah voilà, à se mettre devant les machines, à bloquer, on a couru, on a joué au chat à la souris avec les flics toute la journée.
Vous aussi?
Oui, bah oui, on s'est mis devant le camion et je me suis dit, bah, je vais rester devant, au milieu de la route, et puis on a fait le blocage du camion, quoi. Ça a duré toute la journée, sauf que évidemment, ça ne les a pas empêchés de tout arracher en deux jours. Voilà.
Et là, pendant qu'on parle, on arrive en haut de la colline.
Voilà, le mont, c'est ici le mont.
Qui nous barrait l'horizon, et là maintenant on est au-dessus, et on voit la Loire, et on voit les piles du pont qui sont déjà en train d'être posées, ou c'est quoi ça?
Ce sont des piles de pont pour faciliter le chantier.
Et on voit l'endroit, n'est-ce pas?
C'est une rampe qui commence à... C'est le début du pont, quoi, en fait.
Mais alors, par contre, tout autour, c'est des arbres, c'est de la nature, c'est vraiment au milieu de...
Tout ça, c'est la forêt qui a été arrachée. Vous voyez, il y a les souches encore qui sont ici. Regardez la taille de l'arbre.
Et 10 mètres plus loin, là, c'est la pelleteuse qui passe avec ses chenilles. Mais c'est pas pour autant que...
On s'arrête de lutter.
Ouais.
Non, on s'arrête pas de lutter. Non, on lâche pas. C'est quand même des chantiers qui, on va dire, on a l'impression d'être il y a 50 ans, quoi. La métropole, l'extension des plateformes, la mort de la ruralité, tout ça, c'est des choses dont on ne parle que très peu, en fait, quoi. On a acheté les paysans en face, là, de l'autre côté, dans le Val, pour qu'ils vendent leurs terres, et puis au bout d'un moment, ils avaient lutté quelques années, mais au bout d'un moment, vous pouvez pas toujours lutter contre le progrès, monsieur.
C'était notre slogan, hein, d'ailleurs, je l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais on avait un slogan quand on a occupé en face, là, c'était... 1000 sources, un fleuve et tous ses affluents, nous sommes la Loire qui se défend.
Le ciel de la Loire, c'est du gris. C'est si doux à voir que même quand il pleut, il y a des gens qui viennent sous le ciel de Touraine pour rêver un peu. Le ciel de la Loire, c'est du bleu, du gris. C'est si doux à voir que moi, quand je m'ennuie, je pars en voyage vers tous ces nuages sans quitter Paris. Sur tous ces roseaux qui dansent et qui chantent, sur tous ces îlots de sable doré, sur la Loire enfin qui va nonchalante.
France Inter.
Bonjour, monsieur Genevois.
Ça va?
Comme ça, oui.
Ah, c'est vraiment...
Oui, là, c'est un endroit, on est à un endroit assez magnifique. On est dans le jardin de Maurice Genevois.
Le Maurice Genevois du Panthéon.
Le Maurice Genevois qui a été panthéonisé il y a un an par Emmanuel Macron. Ce qui n'a pas été la plus bête de ses décisions. Peut-être même que ça a été la meilleure. Donc, ouais, moi, j'habite en yourte, juste à côté de là où ils veulent faire le pont. Et donc, un jour, j'apprends que Macron est venu ici.
Là où on se trouve, là.
Pour discuter de la panthéonisation avec le petit-fils de Maurice Genevois qui s'occupe de sa mémoire. Et je fais dingue, j'étais à 800 mètres dans ma yourte. Et il y a Macron qui était là, je le savais pas, etc. Et puis, du coup, je m'intéresse et je me dis, mais Maurice Genevois, c'est qui celui-là? J'en avais déjà entendu parler dans le coin. Il a habité là toute sa vie, dans le hameau des Vernelles. Il a grandi juste à côté, à Châteauneuf-sur-Loire. Et donc, je me suis mis à lire et à me rendre compte, à m'imprégner de cet auteur tout en me baladant les bords de Loire.
Qui chante cet environnement et la relation des hommes avec cet environnement.
Voilà, qui a une écriture absolument extraordinaire de la vie quotidienne au bord de la Loire, des bateaux, de la vigne, de la pêche.
Je suis devenu pêcheur, je suis devenu un fanatique de la Loire, je l'ai connue, je vivais dessus, au bord, dedans, si bien que... Elle s'est incorporée en quelque sorte à ma substance et à ma sensibilité profonde. C'est tout à fait naturel et normal.
Et il a tout souvent été taxé de traditionnaliste, de régionaliste, alors qu'en fait, c'était un grand écologiste immergé, en fait, dans la nature et je sais pas comment le décrire, c'est une espèce de mythologie de la Loire qu'il a écrite. Et donc, quand on a su qu'il allait être panthéonisé, nous, on avait ce projet de faire une contre-panthéonisation, de faire une panthéonisation alternative et pour montrer que Genevoix, ce n'était pas que le soldat, la mémoire de 14, etc. C'était aussi la Loire et l'amour de la nature qu'il a exprimé dans toute son œuvre. Et donc, on a organisé le 23 mai dernier une cérémonie, un rituel d'hommage. Et puis, on a aussi écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui dire que, faire un tel projet à moins d'un kilomètre de chez lui. Et on y a cru à un moment donné que Macron, il aurait pu faire un geste, même symbolique, il pourrait utiliser ça politiquement, etc. Mais il y a un moment donné, on était prêt à tout, quoi, pour que ici, ça se fasse pas, quoi.
Ce goût des espaces libres, du plein air, cet amour du fleuve, de la forêt, de la nature à la fois recours, refuge et aussi source d'exaltation, cet amour qui ne m'a jamais quitté.
Bon, vous devinerez la suite, hein. Rien n'a bougé.
Mais c'est vrai que ça rend lyrique ce paysage-là, comme ça.
C'est hyper inspirant, quoi.
Avec le coucher de soleil, enfin, le soleil qui descend doucement, on voit de temps en temps des oiseaux qui volent ou qui décollent de l'eau. Cette vue dont on se délecte pour encore quelques minutes avant que le soleil disparaisse à l'horizon, cette vue classée, elle s'arrête juste au niveau du chantier qui va bientôt passer et de ce pont.
C'est ça.
Voilà. Et donc, en fait, la famille de Maurice Genevoix et Bernard Maris, qui était mari de Sylvie Genevoix, la fille de Maurice Genevoix, ont lutté contre ce projet, en fait, et ont réussi à faire classer l'angle de vue du bureau de Maurice Genevoix, du perron, là. Et ils ont classé l'angle de vue. Mais aujourd'hui, on est en train de dire, bon là, c'est vrai, parce qu'on ne verra pas le pont passer. Le paysage s'arrête juste à l'endroit où on le verrait passer. Par contre, le bruit, il va être très présent ici.
C'est-à-dire que là, on entend les oiseaux. C'est la fin de la journée, donc les oiseaux sortent. Et ensuite, on entendra les camions.
Bon, on reprend la route, alors.
C'est très simple. La voilà, c'est tout. Mon bureau est là, nous sommes là, et la ligne bleue, la voilà. Il y a deux lieux, c'est-à-dire la distance à peine. La distance d'une promenade à pied, elle m'attire, c'est naturel. Et j'y retournerai peut-être tout à l'heure.
France Inter. La Terre au carré.
Bon, là, je passe...
Cette porte d'entrée.
Ouais, parce qu'il y a une souche, enfin, il y a un arbre à moitié émergé.
J'aime bien passer par là parce que voilà, je trouve que c'est vraiment la porte d'entrée sur ce fleuve. Si on regarde le paysage qu'elle a, c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, on a une Loire sauvage, comme on le dit. Voilà, alors ça pose question parce que depuis toujours, on l'a travaillée, on est bien d'accord, mais au final, elle a su se défendre quand même. Hein. Alors, on a su la défendre aussi, hein, faut quand même bien rendre à César, parce que bon, il y a eu SOS Loire Vivante dans les années 80 et ça a été des luttes importantes.
Qui s'est battu contre des barrages.
Qui s'est battu notamment contre les barrages.
Victorieusement, souvent.
Oui, voilà, il y a une histoire comme ça, effectivement, qui a permis de maintenir. Mais si on a pu dans les années 80 se bagarrer pour une Loire sauvage, parce qu'elle l'était encore. C'est-à-dire que c'était trop tard pour la Seine, c'était trop tard pour d'autres fleuves. Et là, oui, on voit bien que c'est sauvage, on voit bien qu'il y a des racines, il y a des branches mortes, on voit bien que c'est ce bordel de nature, voilà, là c'est du sauvage. Tu vois, c'est vraiment à cet endroit-là que c'est vivant. Des fois, c'est marrant parce que, tu vois, pour revenir sur les histoires de Parlement de Loire et tout ça, c'est amusant, et des fois je m'amuse à raconter ça un peu aux gens en bateau. Bon, vous voyez, bon, les Wanganui, là, une sorte de...
Ça, c'est ce fleuve de Nouvelle-Zélande.
Oui.
Qui a été le premier, un des premiers en tout cas, à être déclaré vraiment comme une entité en tant que telle.
Exactement. Et c'est vrai que c'est à la fois un fleuve, à la fois un peuple. C'est ça qui est quand même intéressant. Et donc ces Wanganui, donc ce peuple-là, considèrent être la rivière. Ils considèrent que la rivière, c'est leur descendant. Mais c'est aussi leurs ancêtres. Bon, ils ont ce lien comme ça. Et alors là, donc tu dis ça à Jean, et les gens disent « Ah ouais, c'est quand même marrant, hein, ils sont quand même un peu, bon, avec un petit sourire, hein, je sais pas ce qu'ils consomment, mais bon, voilà. » Et puis finalement, l'eau, elle est captée là, donc c'est clairement la Loire qu'on boit. Donc on est à 75% la Loire, en tout cas pour les gens de Tours. Concrètement, on boit la Loire et on est la Loire. En ce moment, on a les cormorans qui viennent d'arriver.
C'est le champ noir.
Ouais. Alors c'est les Vikings un peu, tu sais, ils terrorisent nos pêcheurs. Bah, si tu veux, c'est qu'on pourrait attribuer le droit du sol aux oiseaux, hein, et considérer que les sternes qui nichent l'été sur la Loire sont bien françaises, hein, même si elles passent l'hiver en Guinée.
À l'inverse, les cormorans, eux, ils passent l'été en Norvège, Finlande, Hollande, et c'est là-bas qu'ils vont se reproduire. Et ils reviennent l'hiver, donc en horde de barbares, pour piller nos rivières. Ça me fait voyager, moi. J'ai le saumon qui arrive du Groenland, les anguilles qui arrivent de Jamaïque, les cormorans qui arrivent de Norvège, les sternes de Guinée. On a la grande aigrette qui est une immigrée de l'Est, qui arrive du Danube. Et c'est le voyage, et puis tous les ans, ça se balle comme ça, qui se balade, et qui... Et c'est vachement important pour moi. C'est vrai que... C'est pour ça que c'est toujours un peu difficile de voir des espèces migratrices qui sont en peine, quoi, hein, notamment les saumons, les aloses, qu'on voit d'année en année.
C'est très inquiétant.
Gringoler. Clairement, on sait très bien que c'est les barrages, en l'occurrence le barrage de Saint-Laurent, qui est le premier réel barrage depuis l'océan.
Et ces poissons migrateurs, ils ne peuvent pas les passer pour aller dans les zones de frais plus en amont.
Voilà, le problème, c'est ça. Je pense qu'on a une amnésie de nature qui est incroyable. Aujourd'hui, bon. Quand on dit qu'il y a du saumon dans la Loire, je me dis quoi ? Il y a du saumon dans la Loire ? Je dis oui, enfin, il y en a bientôt plus, mais.
C'est ça.
Mais oui, oui, oui. Et il y en avait dans toutes les rivières. Et c'est là que tout d'un coup, on voit des écosystèmes qui sont devenus extrêmement rares, quoi. Là, on pourrait faire une escale, si tu veux, aller voir cette île.
Pourquoi pas, voilà.
On n'est pas.
Là, on s'approche. Là. On va pousser un petit arrêt là-dedans, c'est sympa.
Et voilà, on descend.
Aux racines. Oui, un petit sentier.
Je profite de cette escale improvisée pour aller retrouver deux autres défenseurs de la Loire qui se sont engagés eux aussi dans cette histoire du Parlement. C'est Catherine et Philippe Boineau, un couple mi-pêcheur, mi-chercheuse et inversement, qui sont aux premières loges des dégâts faits au fleuve.
Oui, un excellent documentaire leur a d'ailleurs été consacré, les lanceurs d'alerte de la Loire, car depuis des années, Guives, ils tirent la sonnette d'alarme sur l'état de la Loire et de ses habitants.
Et là encore, le constat est plus qu'inquiétant, avec des algues propices à la prolifération des cyanobactéries, les obstacles amenés par l'homme, et la difficile cohabitation entre poissons migrateurs et poissons migrants.
Bonjour.
Catherine Boineau, enseignante-chercheuse à l'université de Tours, écologue des milieux aquatiques dans la plaine alluviale de la Loire.
Philippe Boineau, pêcheur professionnel sur la Loire et le Cher, et aussi chercheur de formation.
C'est ça, vous étiez d'abord chercheur et après vous êtes devenu pêcheur.
Oui, à l'inverse de Catherine, qui a été pêcheur professionnel avant d'être à l'université.
Donc c'est bien, c'est complémentaire, quoi.
Ah, c'est, oui.
Et alors là, du coup, on est sur une partie de votre territoire à tous les deux. Alors parlez-moi de vos études, justement, Catherine Boineau.
Donc je travaille plus particulièrement sur les poissons migrateurs à l'eau anguille, ce qui m'a emmené à travailler récemment sur le silure et son impact sur les poissons migrateurs. Donc ce qui m'intéresse de comprendre, c'est pourquoi est-ce que les populations sont en train de diminuer, quels sont les facteurs qui peuvent influer là-dessus. Donc les augmentations de température de l'eau, et puis autre pression en fait auxquelles sont soumis nos poissons migrateurs, qui est relativement récente, hein, qui date du début des années 1980, c'est l'arrivée du silure, donc qui est un grand poisson originaire du bassin du Danube, piscivore, donc il mange d'autres poissons. Le plus long que j'ai pu mesurer faisait autour de 2,90 m.
Ah ouais,
c'est très impressionnant. Et donc, ces poissons-là, comme ils sont prédateurs, eh bien, ils vont s'alimenter à partir des poissons migrateurs. Donc, saumon, alose, lamproie, mulet, anguille.
Autant de poissons qui viennent se reproduire ici, dans la Loire et ses affluents, et qui se retrouvent interceptés.
Voilà, c'est ça.
Oui, ça veut dire que vous, les pêcheurs, vous êtes en première ligne, quoi. Vous voyez
quand on attrape un silure et qu'il nous régurgite un saumon, une alose, une lamproie dans le bateau, c'est clair que. Le silure s'est répandu dans toute la France.
Maintenant, il est partout.
Voilà.
Et en combien d'années, ça ?
Dans une trentaine d'années.
Et l'une et l'autre, vous vous inquiétez de la disparition de beaucoup des poissons migrateurs de la Loire ?
Ils iraient bien si l'homme avait respecté l'environnement. C'est-à-dire que si on veut leur permettre de survivre, il faut leur faciliter le déplacement entre l'océan et puis les rivières de Haute-Loire ou de Lozère. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait, puisqu'effectivement, à chaque barrage, il y a un écrêtement et les plus performants qui vont pouvoir franchir. Même s'il est équipé des meilleurs passes à poissons. Donc pour le saumon, bon, on pense qu'une dizaine, et l'anguille, une dizaine de barrages, ça va. Vichy, le barrage de Vichy, c'est le septième depuis, barrage en dur depuis l'estuaire. Poutesque est en train d'être reconfiguré par EDF pour être plus franchissable par le saumon, c'est le 15e. Donc si on veut avoir des chances pour ce poisson d'arriver en Lozère, il faut absolument lui faciliter le transit. C'est-à-dire qu'on a toujours une vision anthropocentrée. C'est aux espèces de s'adapter à nos exigences, à nous humains. On n'a pas compris qu'on devait respecter les priorités de ces espèces pour qu'elles puissent survivre. C'est-à-dire que le saumon, la louse, la lamproie, ils ont un marathon à faire. Ils sont prévus pour ça. pour faire 600, 1000 km sans manger, puis se reproduire.
Et mourir.
Mais si l'homme, sur ce marathon, il ajoute une course de haies, simplement on leur rend la mission impossible.
Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de saumon dans cette Loire, alors que c'était un des derniers fleuves d'Europe où il y en avait.
Enfin oui, c'est le dernier fleuve en Europe. Alors que si on remonte aux années 1700, la Seine, la Garonne, la Dordogne, le Rhin, l'Elbe avaient aussi ces populations de saumon. Donc il est d'autant plus à préserver puisqu'il est un petit peu une relique.
Mais il en reste combien alors ?
Cette année 250. Quoi.
Oui, on en est à une moyenne de 250-300 individus. Alors que les scientifiques ont dit que le seuil pour que la population soit génétiquement viable et durable, c'est 1000 individus. Donc on est quand même très loin du compte.
Dans 5 ou 10 ans, il n'y a plus de saumon, quoi. Alors que c'est une espèce qui est protégée, préservée depuis des années, quoi.
La protection ou la préservation, ça ne peut pas s'exercer que sur l'espèce en elle-même. Ça ne peut s'exercer que sur l'habitat. Et l'habitat, pour une bestiole comme le saumon ou l'anguille, c'est tout un bassin versant et c'est aussi ce qui se passe dans l'océan.
Et pour ça, il y a un gros travail effectivement à faire pour faire que les gens ils essaient d'ouvrir un peu leur chakra, quoi.
J'aime bien votre expression.
Ah non, mais qu'ils aient un peu plus d'empathie pour les autres êtres vivants. Et du coup, si on n'a pas assez d'empathie pour le comprendre, qu'on est tous recroquevillés sur nos intérêts égoïstes catégoriels, en disant non, l'eau est pour moi et j'en ai rien à faire des besoins des autres humains, mais encore plus de ces êtres vivants non humains, on est mal barré. D'où l'intérêt du Parlement de Loire.
Voilà, d'où l'intérêt du Parlement de Loire qui permet d'avoir une autre approche. C'est une démarche très intéressante parce que ça va nous obliger à nous repositionner d'une autre manière par rapport à ces écosystèmes dans leur ensemble, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans la démarche.
Ouais. Les humains, ils ont oublié d'où ils venaient et où ils allaient. Donc, on est tous dans notre bus, on fonce vers le précipice, chauffeur accéléré et on y va tous gaiement.
Jusqu'ici, tout va bien.
C'est ça. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien, c'est ça.
Mais jusqu'ici, tout va bien. D'ici, on ne voit rien. Jusqu'ici, tout va bien. D'ici, on ne voit. D'ici, on ne voit. D'ici, on ne voit rien.
France Inter. La Terre au carré.
À 3 heures de route de Tours et nous voilà tout près de l'estuaire de la Loire, à 20 minutes de Saint-Nazaire, où on a rendez-vous avec encore d'autres Ligériens qui s'inquiètent de l'avenir de leur fleuve. Et devant moi, là j'arrive, et là je vois route barrée, des gros rochers, et sur le sol, écrit à la bombe, « Demain, on réoccupe ».
Oui, bonjour, alors je suis Gabriella Marie. Je fais partie du collectif Stop Carnet. Dès le début de cette lutte, j'étais présente. J'ai découvert l'ancienne île du Carnet, parce que c'est une ancienne île ici, grâce à Johan. Et j'en remercierai jamais assez, parce que c'est quand même grâce à lui et son père que nous avons monté ce collectif et que nous avons lutté pacifiquement pendant plusieurs mois.
Oui, moi c'est Johan, je suis paysan bio, donc pas loin du Carnet, à 20 minutes en voiture. Et du coup, je suis actif depuis 3 ans dans les luttes contre les projets destructeurs du coin.
Et là, c'est Roger. Alors Roger, c'est la bibliothèque vivante du Carnet et qui connaît le mieux le moindre recoin, les moindres brins d'herbe, voilà.
Moi, j'étais mécanicien agricole. J'étais arrêté pour des problèmes de santé. Donc c'est pour ça que j'ai pu savoir ce qui se passait ici, qu'on a un sens.
Et là, vous êtes devant le début de la ZAD. Les barricades étaient ici. Donc c'est là que l'aventure a commencé, de presque 2 ans de lutte, et pendant les 7 mois de la ZAD, où la ZAD était là.
Jusqu'à quand alors ?
L'évacuation, c'était au mois de mars, et la ZAD est restée 7 mois. Voilà.
Et dites, on va faire un tour, on s'approche un peu.
Ouais, on s'approche un
peu. Même si on voit que la route est barrée, interdit au public, sécurité, il y a 2 camionnettes qui sont là, mais bon, nous on est du bon côté, on respecte la loi, donc il n'y a pas de soucis.
En plus, la route départementale, normalement, elle va jusque là-bas, en fait. C'est illégal, leur barrière, là, mais bon.
Ah ouais ?
Oui. Il faut savoir que le Carnet en tout, c'est l'ancienne île du Carnet, parce que c'est une île. En fait,
d'ailleurs, je vois une petite mare là où je sais pas quoi.
Oui, alors là, en fait, c'était l'ancien port. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez que le site industriel, il avait surtout dans cette partie-là de l'île du Carnet.
Donc, à gauche, là,
juste
de là-haut.
À gauche, là.
Là où on voit des arbres.
Ouais, entre Pas-Meuf et ici, à peu près. Paysage bocager, puis après, c'est des paysages de zone humide aussi à l'intérieur. Donc, il y a pas mal de saules, il y a pas mal de peupliers, il y a beaucoup de roselières. Et donc, ça, c'est ça qui va être détruit. C'est tous ces espaces-là, là, qui seraient détruits. Donc, voilà, sur 110 hectares, aménagement total du site pour un projet de parc éco-technologique, donc au Carnet.
Éco-technologique. Ah, c'est bien ça. Si c'est éco. Vous qui faites du bio, ça vous plaît.
Aujourd'hui, tout est écologique. Je veux dire, c'est une escroquerie, c'est du greenwashing total. En fait, soi-disant, des projets d'énergie renouvelable, production de panneaux solaires, éoliennes et compagnie. Sauf qu'en fait, on a découvert plus tard qu'en fait, bah, c'est caché d'autres projets de prévus, dont entre autres production de batteries, production de bateaux. Enfin voilà, en clair, une zone industrielle comme les autres en fait.
Sauf qu'elle est pile dans l'estuaire de la Loire, en face de Saint-Nazaire.
Et donc, cette zone-là, qui considère comme étant une zone en friche, que soi-disant, ça a été rempli, etc. Du coup, c'est une vraie aberration. Donc là, on contribuerait à détruire encore 110 hectares de zone naturelle sur une zone en fait qui était avant la Loire.
Roger, décrivez-moi ce paysage.
Bah là, on se trouve au niveau du port de la Vieille Douve, c'est qu'il y a la cale qui est là, qui est ici. Ouais. Donc qui donnait directement sur le bord de Loire. Donc maintenant, il reste que l'étier qu'ils ont fait.
Ah, il y a la voiture de sécurité qui nous fonce dessus.
Voici les vigiles qui arrivent.
Il a fait 10 mètres avec sa voiture jusqu'à nous.
N'importe quoi.
On ne doit pas vous laisser prendre la photo ici.
Non, mais de toute façon, vous en faites pas, on est parti dans 10 minutes.
Non.
Moi, c'est la radio.
Si, monsieur.
Attendez, monsieur, vous arrêtez 2 secondes. On est parti dans 10 minutes.
Oui.
Je suis en train de faire un
reportage. Est-ce que vous pouvez nous dire l'autorisation aussi qui vous permet de venir faire le reportage sur le site? La liberté de la presse, c'est pas partout.
Ici, j'ai le droit.
La liberté de la presse.
Ici, j'ai le droit.
Non, j'ai pas besoin de la loi. C'est pas la loi qui m'intéresse. Non, vous appelez les gendarmes que je vous empêche parce que là, comme vous empêche de le faire, vous pouvez aussi appeler les gendarmes.
On attend. Allez.
Vous appelez les gendarmes.
Au revoir.
Ouais, c'est ça.
On s'écarte un peu parce que le monsieur.
Donc là, on était sur.
C'est tendu la situation.
Ouais, mais là, c'est un peu n'importe quoi parce que. Bah, ils veulent pas montrer la vérité de ce qu'est vraiment l'île du Carnet, quoi, dans un sens.
Et justement, vu qu'on peut pas y aller, puisque le monsieur est très énervé, ça ressemble à quoi là-bas ?
Donc c'est un petit port qui servait dans le temps pour les agriculteurs pour aller sur l'île du Carnet, qui était inondée par les marées, quoi. Donc ils mettaient les bêtes, ils suivaient les marées pour pouvoir les mettre dessus, ils faisaient le foin suivant les périodes, voilà. Donc c'était exploité à l'époque. Ils ont tout exproprié pour remblayer le bord de Loire. Parce que
c'était quand ça?
C'était remblayé de 76 à peu près jusqu'à 93 que c'était remblayé. Il y a toute une histoire. Donc, puis tout ça, tout a été détruit. C'est quand même. Ils ont détruit un patrimoine. Hein.
Après, ils ont détruit un patrimoine, mais depuis la nature, ça fait maintenant plus de 20 ans, elle a repris ses droits, il y a la végétation partout. Sur les 110 hectares du projet, on a que 51 hectares de zones humides. Donc on sait l'importance aussi que ça a, aussi au niveau de la biodiversité. Il y a plusieurs zones différentes, il y a des landes sauvages, il y a des zones plus marécageuses, il y a un peu de tout en fait, il y a plein de micro-habitats en fait. Il y a même des espèces menacées, des oiseaux menacés d'extinction au niveau européen, qui en fait nichent au Carnet. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est notre objectif, c'est de en fait en faire une zone de libre évolution, c'est-à-dire dire ça, ça suffit, on protège définitivement l'île du Carnet qui fait au total 400 hectares, on arrête tout, que l'État dit c'est une zone, voilà, où on ne touche plus à rien, on laisse faire la nature et la Loire naturellement reprendra ses droits en fait si on laisse aussi faire. Et malheureusement, moi je vois bien, on voit bien qu'on est séparé de ce qui nous entoure et des conséquences réelles de ce qui se passe. Et qu'il est temps aussi qu'on se relie en fait, à ce qui nous entoure et à ce qui est possible réellement en fait, de faire dans nos environnements.
Fais gaffe à la voiture du monsieur.
Oui.
attention, ma voiture c'est ça, écrasez-moi, mais ça va pas, non
ça va, là.
Oh, mais vous êtes malade, hein.
Vous êtes un grand malade.
Là, vous êtes devant une voiture.
Vous êtes un grand malade.
Allez-y.
Oh, ça suffit, on n'a pas que ça.
Si, je fais un abus. Allez.
Vous pouvez nous laisser travailler, s'il vous plaît, monsieur.
Moi, je peux prendre tout plein de comme vous.
La porte est plein.
Allez-y. Regardez-vous.
Il est ridicule. Vous êtes ridicule.
Bon, alors, sur ce.
Bon, alors. Type.
Ça va pas l'ambiance au Carnet. Hein,
ça c'est rien. C'est un épiphénomène.
Ouais,
on a des procès à tour de bras. Là, j'étais en garde à vue.
Ouais,
on
ouais.
A un procès au mois de mai.
Ah mais je suis en fait avec des dangereux fauteurs de
dangereux terroristes. Voilà.
Éco-terroristes.
Voilà, je dors avec un couteau entre les dents, moi, monsieur, tous les jours.
Vous êtes une Khmer vert.
Voilà. Exactement.
Mais bon, on lâche pas le morceau. En tout cas, c'est pas possible. Nous, c'est pas possible. Quand on a découvert une zone comme celle-ci, qu'on est tombé amoureux de cette zone.
Je suis tombé amoureux de cette zone. C'est une beauté austère et c'est magnifique.
Il y a une mosaïque de végétation, et puis ces espèces, enfin, c'est formidable.
En fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas redescendu, enfin, c'est pas fini, quoi.
Oh non, non, non. D'ailleurs, il faut préciser que c'est absolument pas terminé. Pour l'instant, on va dire que le Grand Port a mis cela en pause. Enfin, on n'est absolument pas dupes. Il y a certaines personnes qui sont installées à la maison du Carnet, à quelques encablures, si je puis dire, d'ici, où donc une autre résistance se met en place, se construit, et il continue à être en vigilance, il continue à vouloir défendre d'une autre façon cette magnifique île du Carnet qui mérite vraiment qu'on la protège.
Une dernière idée soufflée dans ce parcours ligérien. Et si on passait de l'aménagement du territoire à des politiques de ménagement du territoire? Un grand merci en tout cas à toutes et à tous, à commencer par Maud Le Floch et Annabelle Royer du Polo de Tours, à Virginie, Gabriella, Catherine et Catherine, ainsi qu'à Clément, François, Johan et Roger qui nous ont baladés le long de leur Loire. Si vous êtes dans la région, Mathieu, d'ailleurs, une marche pour la défense du Val-de-Loire contre le contournement Est d'Orléans est organisée ce dimanche 5 décembre à partir de 13h à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret, à l'occasion de la Journée mondiale des sols.
Et toutes les références, bien sûr, sont à retrouver avec des photos de votre reportage Guy Vanquil sur le site de la Terre au Carré sur franceinter.fr.
Vous pouvez donc réécouter le podcast et aussi un lien pour la reprise d'Angèle, Balance ton pompier. Ah, vous avez beaucoup aimé ça, Mathieu,
j'ai entendu. Ça, absolument. Et on vous retrouve donc le mois prochain, Guy Vanquil, pour un nouveau reportage grand format.
Oui, on retourne passer l'hiver aux Maldives.
Bon week-end.